t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Face à l'agression rwandaise, ces supplétifs du M23 dans l'est de la RDC, des initiatives de paix se sont multipliées tant sur le plan national qu'international pour mettre fin à cette insécurité qui s'écoule l'est de la RDC depuis 3 décennies. Sur le plan interne, il y a cette initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo qui a débuté le 4 février 2025 et qui, selon ses coordonnateurs, a atteint avec satisfaction les premiers objectifs que c'était assigné. Le prince de l'Église catholique et protestante ont effectué des missions en RDC en dehors du pays afin d'échanger avec toutes les parties prenantes en vue d'une solution de paix durable en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. D'autre part, l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi, les consultations politiques visant la formation d'un gouvernement d'union nationale ont pris fin le mercredi 9 avril 2025 sous la conduite du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Pendant 2 semaines, il a reçu des acteurs politiques congolais et des membres de la société civile pour recueillir leurs avis sur la crise sécuritaire et politique dans le pays. Sur le plan international, il y a eu le 18 mars 2025 cette avancée diplomatique à Doha au Qatar avec cette rencontre qui a réuni les deux présidents rwandais et congolais sous la médiation de l'émir du Qatar. Et selon certains analystes politiques, cette rencontre s'inscrit logiquement dans une série d'autres initiatives, dont notamment les procès de Nairobi et de Luanda et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelle lecture faites-vous à ces jours des initiatives de paix sur le plan national après la fin de consultations politiques et de toutes ces missions effectuées par les princes de l'Église? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour s'écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 085 44 65 536. Hippolyte Kapanga est à la mise en œuvre de ce magazine. Lise Kavira sous la réalisation et la coordination. Paul Badianyama est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. À toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix encore une fois. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Eh bien, pour aborder cette question, nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios Maître Séraphin Oumba au cadre de l'UDPS Kibasa Maliba. Maître Séraphin, bonjour.
Bonjour Marcel.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation d'entrée de jeu. Quelle lecture faites-vous de toutes ces initiatives de paix, d'abord sur le plan national?
Les initiatives de paix sont toutes les bienvenues. Sur le plan national, je crois que on peut épingler des initiatives. L'initiative du chef de l'État tendant à consulter toute la classe politique, tendant au fait la main directement à l'opposition, pour que nous puissions aujourd'hui avoir un front commun interne afin d'affronter cette monstrueuse question de l'Est. Bon, il y a aussi une autre initiative des prélats catholiques et protestants, que moi personnellement je n'approuve pas trop. Donc, mais si tout ça concourt à ce qui est la paix, à quoi bon?
Voilà. Donc, du moment où ces initiatives peuvent amener à la restauration du pays à l'est de la RDC, tant mieux. Mais il y a, par exemple, prenons les cas des consultations politiques, il y a l'opposition, en tout cas, une grande fond de l'opposition, qui s'est dit ne pas être concernée. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'opposition a tout à fait raison de ne pas embrasser directement l'appel du chef de l'État, sinon elle cesserait aussi d'être une opposition, qu'on prendrait au sérieux. Mais je crois fermement que les dialogues ou les négociations sont quasi permanentes. Donc les hommes politiques ne peuvent pas arrêter de se parler. S'ils ne se parlent pas formellement, ils peuvent continuer à se parler d'une manière informelle. C'est à quoi je crois sincèrement. Et je pense que tout Congolais épris de l'esprit de la paix ne verrait pas des mauvais œils, l'appel lancé par les chefs de l'État à l'égard des oppositions, qu'elle se considère aujourd'hui comme une opposition farouche, mais elle n'aura pas raison de donner une carte blanche au Rwanda par rapport à leur RDC qu'il chérisse tant. Et donc, tout à fait intérêt aujourd'hui de s'approcher auprès du chef de l'État et voir ensemble comment nous pouvons, en état uni, affronter la question de l'Est, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, je reste convaincu que les négociations ne sont pas que celles qu'on mène la journée. Les hommes politiques ont plusieurs canaux pour parler, et je crois sincèrement qu'ils savent, parce qu'en tant qu'hommes d'État, ils savent mieux que moi qu'ils n'ont pas autre choix que de dialoguer avec les pouvoirs en place.
Il n'y a pas d'autre choix que de dialoguer. Vous êtes au cadre de l'UDPS Kibasa Maliba. Et comme tout le monde le sait, l'UDPS Kibasa Maliba est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Mais il a beaucoup estimé qu'il y a déjà le président de la République qui a la majorité avec lui. Mais pourquoi il faut encore des consultations politiques pour le gouvernement d'Union nationale?
Bon. Vous savez, le chef d'État a dit qu'il aimerait avoir un gouvernement d'union nationale. C'est son vœu. Mais si les choses n'arrivent pas à se réaliser telles qu'il entend, le Congo ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est une réalité. Le Congo va avancer. Et dire de sa majorité, effectivement, il a sa majorité. Fort de cette majorité, je crois que le chef de l'État a ses mains libres de pouvoir composer avec qui il veut et de vouloir baptiser aussi le gouvernement comme il veut. Il peut l'appeler gouvernement des warriors, gouvernement d'union nationale, gouvernement... Tout dépend du contenu et des objectifs qu'on veut atteindre. Si aujourd'hui nous disons gouvernement d'union nationale par rapport à l'opposition, oui, l'opposition aujourd'hui est bien définie par rapport au Parlement. Cette minorité parlementaire constitue en tout, lorsqu'on met ensemble, sortir un gouvernement d'union nationale. Mais les refus des autres ne peut pas empêcher à ce gouvernement qui intègre une opposition, soit-elle constitutionnelle ou institutionnelle, n'exclut pas que cela soit appelé gouvernement d'union nationale. S'il y a un parti ou deux partis politiques qui constituent cette minorité parlementaire, qui rejoignent aujourd'hui le gouvernement, n'empêche que ce gouvernement puisse être baptisé un gouvernement d'union nationale. Donc on en déplaise à d'autres hommes politiques qui se croient avoir plus de poids que certains autres, s'ils ne sont pas là, mais le gouvernement ne cessera pas de s'appeler gouvernement d'union nationale.
Voilà, mais vous êtes aussi une autre curiosité, ça il faut quand même aussi le dire. Est-ce que vous pensez, la manière avec laquelle, en tout cas, l'Union sacrée, la majorité, gère cette crise qui n'a que trop duré dans l'Est de la RDC, quelle lecture faites-vous de la manière, en tout cas, de gérer la crise? Parce que c'est vrai que le président a beaucoup prôné les fonds diplomatiques. Je dois aussi voir les résultats sur les fonds diplomatiques avec notamment cette résolution du Conseil des sécurité des Nations Unies qui a fermement critiqué la présence rwandaise avec son soutien à M23 et qui a exigé le retrait de troupes rwandaises puis la cessation des hostilités. Mais il y a ceux qui estiment également qu'il fallait plus une montée en puissance de l'armée congolaise pour finalement taire les ambitions du président rwandais.
Bon, si j'ai saisi bien la question, vous avez déjà donné une partie de la réponse sur le volet diplomatique, mais le volet militaire reste les casse-têtes pour le Congo, pour la simple raison que aujourd'hui, 6 ans au pouvoir, on a cru avoir une armée formée pendant 18 ans avant les 6 ans. Mais en réalité, ce n'était que du bluff. Parce que nous étions dans ces pièges-là où, après tant de mixages, de brassages, nous avons plus intégré les pions rwandais dans notre système de défense. 6 ans après, on a cru, parce qu'on disait que nous étions 8e, 7e puissance, et ainsi de suite, on a cru qu'on était à cette dimension-là. Sans oublier que pendant 18 ans, l'État congolais où les gouvernants congolais n'a été que les sous-traitants du gouvernement rwandais. Et sur le plan sécuritaire, notre armée avait donc en réalité des failles. Que aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut en découdre sur le plan militaire n'ont pas tort. Aujourd'hui, il faut y arriver. Et pour y arriver, il fallait qu'on rencontre cette réalité où nous avons trouvé que dans nos rangs, il y avait beaucoup d'infiltrés qu'il fallait extirper. L'État est le meilleur allié, on dit. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avions des failles et nous sommes en train de remonter en puissance. Parce que si l'État congolais n'avait pas mis tous les céréales pour cette résistance, cette montée en puissance, je crois que ce qui est arrivé en 97 nous serait aussi déjà arrivé. La guerre de 97 a fait quelques mois, le Rwanda était déjà à Kinshasa. Mais aujourd'hui, pouvoir résister et contenir l'agresseur uniquement dans ces deux provinces, ce qui n'est pas un motif de satisfaction, je le souligne bien, c'est déjà que notre armée a su tirer des vraies leçons et se comporter en conséquence. Nous sommes donc, nous n'allons pas nous voiler la face, dire que à l'entame de la guerre, nous avons cru qu'on avait une armée, pourtant c'était une armée piégée par Kabila. Maintenant que les enfants du pays sont conscients de la réalité de la domination rwandaise, les gens ont pris les choses au sérieux et nous sommes en train de voir comment terminer cette guerre, si pas sur le plan diplomatique, mais qu'on soit au moins à même sur le plan militaire de résister. Et c'est ce qui est en train d'arriver.
Alors, un commentaire par rapport à cet appel du chef de l'État à la mobilisation générale. On a vu en tout cas beaucoup de ministres abandonner leur cabinet pour aller faire la mobilisation de tous les Congolais, pour faire prendre conscience à tous les Congolais de pourquoi il faut qu'on soit tous unis derrière le chef de l'État et son gouvernement face à cette agression rwandaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation? Et ça porte de fruits ou bien, bon, c'est un peu mitigé?
Non, c'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, chaque Congolais se réveille, demande à un autre Congolais de prendre conscience. Bon, si vous le dites uniquement sur le plan des gens qui occupent de hautes fonctions, les ministres, comme vous l'avez dit, c'est aussi une manière de faire. Mais ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Vous savez, cher Marcel, que cette guerre a ouvert aux Congolais les yeux. Il y en a effectivement d'autres qui se sont pris en retard, mais ça a ouvert aux Congolais les yeux. S'il faut avoir un thermomètre pour les mesurer, il faut jeter un coup d'œil dans notre diaspora. Aujourd'hui, la diaspora congolaise se comporte d'une manière exceptionnelle et encourageante. La diaspora congolaise a pris à bras le corps cette réalité. Et sur le plan diplomatique, à part les efforts fournis sur le plan institutionnel, les Congolais de la diaspora sont debout et on fait bouger les lignes et comme ça n'a jamais été auparavant. Donc la sensibilisation, je ne voudrais pas tomber dans votre question de dire qu'on peut s'en prendre aux ministres qui le font au-delà de leurs attributions. On ne s'en prend à personne parce que tout le monde peut le faire. C'est un joueur de football peut le faire en marquant les buts. Il fait les signes que nous tous nous connaissons. Il y a des sportifs de tous bords, des musiciens qui le font. Je ne peux pas m'en prendre aux ministres qui puisse aussi le faire. Mais c'est la réalité sur le terrain et que aujourd'hui, Tshisekedi a su réveiller dans les chefs du Congolais la résistance. Aujourd'hui, aucun Congolais ne voit comme avant 1997 de bon oeil l'arrivée de la rébellion. Donc tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une libération, plutôt d'une démarche de soumission de l'hégémonie rwandaise sur le Congo et que cela ne passerait plus. Et d'ailleurs, vous verrez que dans la progression du M23 est tout à fait différente de la progression de l'AFDL. Parce qu'à la progression de l'AFDL, c'est cette population elle-même qui attendait les soi-disant libérateurs. Et que, j'ai dit là, il y a tout à fait une différence. Qui attendait les libérateurs, et chaque fois que les libérateurs arrivaient dans une ville, et le meeting populaire poussait à ce qu'on puisse, à la crier ou à m'élever, voter un gouverneur, parce que les gens étaient enthousiasmés d'attendre les libérateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'il faut les retenir. J'ai dit, nous ne pouvons plus retomber dans cette erreur du passé, où en fait nous avons attendu Mouzé comme libérateur, alors qu'en réalité, c'était les Rwandais qui venaient prendre le Congo pour les diriger pendant très longtemps, comme ils ont su le faire jusqu'après la mort de Mouzé. Et la vie de Mouzé, pour tout Congolais sérieux, par rapport à la relation avec les Rwandais, c'est tout un enseignement. Mouzé est venu avec eux ici. Mouzé les a dribblés un peu à partir de Lubumbashi pour s'autoprogrammer président. C'est ce que les Rwandais n'admettront plus jamais. Là, je prie aussi pour que ça n'arrive pas à Nanga. Mouzé a ouvert les yeux à Kinshasa quand il a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une libération, mais d'une domination où ses frères congolais se faisaient massacrer dans les rues, au vie aussi de tout le monde. Il a décidé de mettre fin à cette coopération. Et quand il a voulu orienter les choses, comme Tshisekedi le fait aujourd'hui, la mort s'en est suffi. Donc, nous ne pouvons plus aujourd'hui penser que le M23 qui vient, c'est pour le bonheur des Congolais. Non. Parce que s'ils ont situé Mouzé, que vaut la vie de nous autres, nous les citoyens lambda. Et nous les vivons à Goma et à Bukavu. Si on ne les vivait même pas à Goma et à Bukavu, une thèse contraire viendrait me contredire. Parce que Parlant des musées, je vais comparer encore Musée avec Nanga. Si Musée pouvait faire taire les velléités rwandaises, mais Nanga je ne le paie même pas. Aujourd'hui, Nanga ne gère rien dans la ville de Goma. Il ne dirait pas qu'il est content des massacres que subissent ses frères. Il n'est pas content, mais il n'a pas des moyens de stopper ça.
Donc, beaucoup de Congolais le pensent, que ce soit les divergences de vue, pour, en tout cas, pour ce qui est de la situation sécuritaire dans la RDC, il faut qu'aujourd'hui, plus que jamais, que tous les Congolais soient unis pour faire d'abord face à cette agression, et ensuite on pourra régler nos problèmes internes.
Bon, nous avons des problèmes. Certes, nous avons des problèmes. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de la gestion uniquement de Kinshasa. Fixer l'objectif de la guerre ou l'objectif politique de l'homme politique sur la présence de Tshisekedi uniquement, c'est faire fausse route. Il faut penser d'abord le Congo, parce que si le Rwanda prend à nouveau le Congo, il n'aura plus de porte sortie. C'était d'ailleurs une chance que le pouvoir de Kabila s'arrête en cette date-là. Ça a été une chance parce que le Rwanda était déjà parti. Toutes les nominations ici dépendaient de Kigali. Toutes les nominations. Même les scénarios dont on a parlé, Nanga, Kabila, cherché dans brigadier Tshisekedi là-dedans. Mais ça dépendait de Kigali. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a dit non, le Congo doit se gérer à Kinshasa. Ce ne doit plus se gérer à Kigali. Et partant de cette réalité, il faut se dire que le Congo passe avant toute chose. S'il faut qu'on s'unisse, qu'on taise nos divergences, il faut les faire parce que le Congo passe
avant tout. Voilà, on revient à vous, Maître Séraphin Mba, au cadre de l'UDPS. Kibasa Maliba, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui des consultations ou des initiatives de paix au niveau national pour le retour en tout cas de la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Il y a cette initiative du chef de l'État, des consultations politiques en vue de la formation de gouvernement du Union nationale, mais aussi toutes ces tournées, ces missions effectuées par les hommes des dieux, notamment de l'Église catholique et de l'Église protestante, pour trouver des solutions, une solution durable pour le retour une solution pour le retour d'une paix durable en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Si vous voulez intervenir, composez les 085 44 65 536.
Parole aux auditeurs.
On va ouvrir le standard avec déjà les premiers auditeurs qui sont en ligne. Yamani Lamba qui nous appelle depuis Bukavu, Junior Bompongo qui est ici à Kinshasa, Jean-Claude Sefoua Kindou et Roger Kabengele à Lubumbashi. Yamani Lamba depuis Bukavu, vous avez la parole.
Bonjour, je salue le confrère qui est l'invité principal de cette émission. Je salue tous les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs qui nous suivent à ce net moment. Toutes les initiatives actuelles témoignent d'une volonté manifeste des Congolais et des grandes puissances et de vouloir sortir de l'impasse, leur efficacité reste conditionnée à quatre impératifs en complément à ce qu'a dit ou soutenu l'invité principal. La première des choses, il faut qu'il y ait une coordination entre les actions internes qui sont engagées par la CENCO et les CC, j'ai aussi à la société civile, mais aussi les efforts des internationales, les cas des assises de Qatar, Luanda et Nairobi, d'autres grandes puissances. Et c'est là où nous saluons la désignation du président Farad Niassigwe, le Togolais, de renforcer le processus de médiation dans l'affaire qui oppose la RDC au Rwanda, qui soutient les AFC-FCM23. Mais aussi, il y a l'action qui doit être prise en rapidité, la rapidité dans la mise en œuvre de l'effectivité des décisions issues des consultations politiques, les résolutions 27, la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, des États Unis, ainsi que d'autres sanctions contre le Rwanda qui ont été prises. Il ne reste que dans les tiroirs comme des lettres mortes. Il faut que ça soit effectif et réel et que cette consultation, on ne puisse pas aller à faire un gouvernement égoïste, mais un gouvernement qui s'engage pour le service du peuple. De trois, nous voulons qu'il y ait vraiment dans l'urgence, les cessez-le-feu de tous côtés, hein, du côté Ouazalendo, FRDC, M23, qui doit être observé pendant cette pourparlers. Sinon, la population civile en a marre d'entendre le coup de balle chaque jour. Et ce sont des civils qui en meurent. Nous en souffrons ici au sud Kivu, tout comme au nord Kivu. Que chaque fois, il y a une incursion que nous appelons aujourd'hui des théâtres, des tentatives de récupération des territoires. Et pourtant, ils n'en sont pas capables de les faire. Vaut mieux que ces pourparlers qui sont engagés déjà puissent nous amener à la solution. Et quatrièmement, nous disons que les deux parties au conflit, AFC-M23 et les FRDC, le gouvernement congolais, puissent s'entendre pour seulement, au nom de la compassion de la population civile, prendre des dispositions humanitaires urgentes en ouvrant le couloir humanitaire, parce que la vie de la population est en train d'aller de pire en pire. Et si rien n'est fait dans l'urgence, dans la seconde semaine ici, vous allez suivre déjà des civils qui meurent là où ils sont allés en fuite, parce que les hôpitaux sont dépourvus des produits, des médicaments. Et il y a des problèmes, tout est amalgame, la population souffre dans les collines, là où ils sont allés s'enfuir.
Voilà, merci beaucoup Amani Luamba, depuis à Bukavu. On va écouter cette fois-ci Junior Bopongo qui est à Kinshasa. Junior, vous avez la parole.
Oui, merci. Bonjour, auditeur de la Radio Capi et aussi à l'invité. Oui, dans le projet, je dirais que ces initiatives de paix témoignent réellement une volonté multidimensionnelle de conjurer l'hydre de l'instabilité dans l'est de notre pays. Et cela nécessite, a fortiori, l'implication conjointe de leaders religieux, politiques et aussi de la société civile. Mais néanmoins, nous devons nous mettre d'accord peut-être, selon mon avis, que cela nécessite une synergie inédite entre foi, éthique et gouvernance, comme les trois piliers essentiels qui vont nous permettre de retrouver le bout du tunnel face à l'insécurité qui gagnerait notre pays. Mais aussi, nous devons noter que ces démarches, qu'elles ce soit celles de la CENCO, ou les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale, voire la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, ou même le processus de Doha, alors ça dépendra de la sincérité des acteurs et de l'alignement des intérêts internes de la RDC et aussi régionaux. Parce que si on n'en tient pas compte, on risque encore de faire le surplace. Et comme vient de le dire mon prédécesseur, l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver des vies humaines.
Voilà,
alors,
merci.
Qu'est-ce que moi je ressens?
Rapidement, allez, rapidement, oui.
Oui, donc il est temps que la diplomatie s'adosse à la sagesse, car la paix véritable ne s'impose pas. Elle se cultive dans les taureaux de la justice et d'y rester mutuel. Merci.
Voilà, merci à vous aussi, Junior. Bon, Bongo, depuis Kinshasa, Jean-Claude Sefou, vous êtes à Kindu, on vous écoute.
Oui, bonjour cher Marcel, bonjour à l'invité et à l'ensemble des auditeurs et les intervenants qui vont intervenir. Marcel, vous êtes sans savoir que toutes ces initiatives vont son pesant d'or. Et ces initiatives constituent vraiment un impératif de paix. Si et seulement si, Marcel, il y a sincérité entre les acteurs. Et vous avez vu comment, lorsque l'Église catholique et l'ECC ont commencé cette initiative, et à un moment donné, vous-même, vous avez pu comprendre avec moi comment ils ont été diabolisés par certains quadors, certains dinosaures de l'Union sacrée. Alors que, pour nous, cette initiative constitue vraiment un motif de satisfaction et de fierté parce que ce sont les enfants, ce sont les Congolais, les pasteurs de l'Église catholique et de l'ECC qui ont pris la situation à bras le corps. La situation de l'Est a été tenue avec une grande légèreté. Tenez, Bagala a été tombé depuis le mois de juin, si la mémoire ne me trahit pas, en 2022. Mais qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir empêcher Bunagana et Goma et les autres zones ou les autres localités du Nord Kivu et du Sud Kivu de rester au milieu des FRDC? Donc, vous allez comprendre avec moi que cette situation intéressait ou c'était le cadre des soucis de nos gouvernants. Il faut que l'on se dise en face. Je suis en train d'entendre avec amertume l'invité, Maître Oumba qui est en train de parler, avec qui j'ai beaucoup d'estime, mais je suis en train de regretter comment il veut toujours diaboliser les autres, alors que c'est une situation. C'est comme si vous êtes entré ici chez nous, on dit, vous appelez dans le cocotte en bouzi, ça c'est un adage historique, je pense que lui aussi, il est uniforme, il connaît ce que je veux dire.
Et voilà. Ça veut dire, traduisez.
Ça veut dire que vous avez votre chien, vous voulez appeler ce chien, est-ce que vous caressez ce chien, mais vous prenez encore un bâton. Moi, je pense que ce chien aura peur. quand vous parlez des gouvernements d'union nationale, mais ce n'est pas une panacée. Ou le gouvernement de cohésion nationale. On a vu, on nous a vanté ici avec le gouvernement des Warriors, on a vu tout ce qui s'était passé, Sama 1, Sama 2. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de parler, c'est peut-être ceux-là qui veulent conserver leur poste, ou ceux-là, vous avez dit vous-même, lorsque les consultations ont été initiées par le Conseil du chef de l'État, comment certains tenants de l'Union sacrée sont en train de se bousculer. Moi, je pense qu'ils n'ont pas
Jean-Claude, s'il vous plaît. On a quelques soucis avec votre ligne, mais j'ai compris, vous penchez plus pour cette initiative des évêques de l'Église catholique et protestante. Hein. Donc c'est ce que j'ai compris.
C'est l'unique solution, Marcel.
Voilà, c'est ce qu'on a compris.
C'est pour peut-être partager du pain, Marcel. Il faut qu'on se le dise, qu'on soit sincère avec la population. Hein?
Merci Jean-Claude, c'est fou depuis qu'une. Avant de suivre la deuxième vague des auditeurs, on revient à notre invité, Maître Serafin Ba. Vous avez suivi les réactions des uns des autres. Qu'est-ce que vous en dites?
Je crois que je vais tenir par rapport à l'intervention de Maître Amani et Monsieur Junior. Ils pensent plus sur l'effectivité des résolutions. Parce que sinon, on risque de tourner en rond, aller de résolution en résolution. Si on voulait ne fût-ce que faire respecter les cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose. Mais ça dépend, comme il a dit, aussi de la sincérité des acteurs. Dès lors que nous nous trompons des cibles, nous n'aurons pas de résolution qu'il faut. C'est là que nous disons, si la question, je réponds aussi directement à ce que M. Sefou dit, si la question n'était qu'une question interne, la démarche des évêques suffirait. Mais cette guerre a des dimensions internationales. C'est là que nous sommes plus ou moins stupéfaits ou étonnés de constater qu'on puisse accorder crédit au prélat qui puisse résoudre le problème des États. Parce qu'ici, nous avons un problème entre l'État rwandais et l'État congolais, qui met à l'avant-plan les M23, comme on aime bien les appeler les supplétifs, qui les met à l'avant-plan. Mais la réalité, c'est que les Rwandais veulent soumettre le Congo. Et que les Rwandais soient les maîtres de la région, les Rwandais et l'Ouganda, c'est pareil. À cette réalité, si on connaît cette réalité, je crois qu'on pourra avancer. Si on se trompe en gobant la thèse rwandaise qui dit que c'est un conflit interne, là nous allons nous tromper, nous n'aurons jamais une solution.
Mais c'est pas parce que c'est pas un conflit interne que le prélat a eu cette initiative de rencontrer les présidents de la sous-région. Il y a Kagame, il y a également Museveni.
Oui, mais les rencontrer pour quelle fin? Nous l'avons dit l'autre fois qu'ils ont été et même incapables ne fût-ce que d'obtenir le cessez-le-feu parce que tout le monde doit se. Est-ce que Museveni et Kagame sont sincères? Est-ce qu'ils ont tenu les propos, les discours du gouvernement du gouvernement congolais en face des chefs de ces deux chefs d'État-là? Non. Ils ont la thèse dans leur démarche. Nous sentons qu'ils ont la thèse du Rwanda qui parle que le conflit est purement interne. C'est là que nous ne pouvons pas être d'accord. Le conflit ici, le Rwanda, c'est un acteur principal. Qu'on ne peut pas aller voir comme quelqu'un qui peut nous aider à résoudre les problèmes internes alors que le vrai problème, c'est même le Rwanda. C'est là que nous trouvons cela un peu étrange, et surtout avec les dernières révélations qu'on venait d'avoir ici, où c'est les Rwanda et l'Ouganda qui ont même soutenu les déplacements de nos prélats. C'est quand même étonnant.
C'est ce qu'ils ont démenti.
Non, ils n'ont pas démenti. On ne peut pas dire que c'était l'intelligence artificielle lorsque les prélats de Lubumbashi parlaient. Ce n'était pas l'intelligence artificielle. C'était lui qui les disait. Démenti, oui, c'est parce que ça choquait l'opinion, qu'il faudrait carrément qu'il y ait une thèse contraire pour un peu équilibrer, mais la réalité, c'est celle-là. Nous n'allons pas nous voiler la face. Ce que nous voulons, peut-être encourager la démarche de ce que propose Junior, au-delà de 5 ans, qu'on puisse y ajouter d'autres membres de la société civile, mais alors, uniquement pour résoudre le problème à l'interne du Congo. Mais le problème à l'interne du Congo ne peut venir qu'après qu'on ait fini les conflits avec les Rwandais, la question de l'hégémonie rwandaise ou la question de l'hégémonie ougandaise. La question interne, elle sera résolue. Et là, à la question interne, moi, je pourrais aussi dire que demain, il faut que les Congolais aient le courage de faire une table ronde ou des états généraux sur la question de toutes ces Congolais. Il faut qu'on vide cette question. Tantôt, ils sont les frères, tantôt, ils ne sont pas Congolais, tantôt, ils sont Congolais. Et cette question, je crois que s'il faut une conférence souveraine nationale sur la question de toutes ces Congolais, au moins cette fois-là, non, bon, Titsi, peut-être je singularise aussi trop la question, sur les Congolais d'origine rwandaise, qui sont devenus des Congolais, il faut que cette question, nous puissions l'enseigner aux enfants de génération en génération pour que cet alibi du Rwanda puisse au moins disparaître une fois pour toutes dans la tête du Congolais. Donc, si je peux me résumer en racontant le point de vue de ces intervenants, je pense que la question, la rapidité dans l'exécution des décisions prises sur le plan international, je crois que c'est une réalité. Parce qu'on ne peut pas faire 6 mois en train de parler de cessez-le-feu alors qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. On ne peut pas rester là à dire que le Rwanda doit retirer ses hommes alors que sur le plan de l'effectivité, cela n'est que de l'air. Donc en réalité, il faut aussi une pression réelle pour que les décisions qui sont prises puissent ne puissent que donner le fruit, parce que nous devons sauver la vie humaine, comme l'a dit l'intervenant, parce qu'il y a des gens qui se sont retirés en fuyant les villes pour la guerre, mais ils peuvent mourir aussi d'autres choses. Donc le couloir humanitaire et tout ça passe par l'effectivité des décisions. On ne peut pas se réjouir de la résolution 2773 et on en reste là. Juste à la simple, au simple fait de se réjouir. Non, il faut évoluer. Évoluer, c'est que les gens veulent palper les résultats de ces résolutions.
Mais il y a également cette rencontre de Doha au Qatar où les deux présidents se sont convenus d'un cessez-le-feu, mais toujours sur le terrain, il n'y a pas de résultat.
Oui, vous l'avez dit. Donc, on a effectivement un problème. Si, il y a un problème de la sincérité. Est-ce que le gouvernement rwandais est sincère? Est-ce que les Congolais aussi savent ici, au lieu de parler des problèmes internes qu'il y a en face de nous, les Rwandais, nous devons avoir tous une idée par rapport au Rwanda, nous devons avoir une attitude par rapport au Rwanda. Et cela nous amène à la question de la sincérité et de l'effectivité des décisions. On se décide de cesser le feu, mais on ne fait rien, parce que tout le monde, quand le Rwanda agit, le M23 estime qu'il n'est pas concerné. Quand le M23 agit, le Rwanda estime qu'il n'est pas concerné. Pareil avec les Ouazalèdes et les Fardes. C'est cette question de sincérité qui doit aussi être revue, et pour que nous puissions avoir le début de l'effectivité de la paix aussi.
Voilà, on va poursuivre, on va revenir au standard pour écouter encore d'autres auditeurs. Il y a en fait signe que Roger Kabingili, ça marche cette fois-ci avec sa ligne depuis le Lubumbashi. Roger Kabingili, vous êtes là depuis le Lubumbashi?
Oui, merci, bonjour monsieur.
Voilà, ça marche monsieur, cette bonjour, fois-ci. Ouais. Allez-y, on vous écoute.
Oui. Merci beaucoup monsieur. Comme vous le savez, on peut tout pas dire que ce sont des initiatives, des démarches qui entretiennent la CNCO et l'ICC. On peut tout pas dire que ce sont des bonnes démarches. Hein. Il y a un seul problème qui est relevé. Est-ce que réellement les démarches qui sont en train d'entrevenir, peuvent aboutir effectivement à des solutions concrètes? Parce que sur le terrain, on réalise effectivement les populations de l'Est, Boma et Boukhaï, Boukhaï, sont en train de souffrir des violations des droits humains, des gardistes. Alors, le problème, c'est que ces initiatives doivent maintenir et déboucher sur des actions concrètes sur le terrain. Parce qu'on peut tout changer partout et dire qu'on a pris des résolutions. Comme le précédent directeur vient de le dire, les problèmes résident au niveau de l'effectivité. Même au niveau du rapport international, il dit que la loi doit être effective. C'est-à-dire qu'elle doit remplir la mission pour laquelle elle a été créée. Alors, si la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas été effective, on ne peut pas parler en fait d'une application correcte du droit international au niveau de la RDC. Alors, nous proposons qu'effectivement, ces décisions puissent effectivement être appliquées, et qu'il y ait sincèrement la transparence et le désir même de rétablir la paix. Parce qu'on peut se dire qu'on a qu'on être ensemble autour de table, tout ça, avec l'objectif des pays. C'est ça réellement notre volonté.
Voilà, on a compris, Roger Kabengele, pour vous, on peut bien avoir toutes ces initiatives de paix. On a beau parler de cette résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a beau parler de tout ce qui peut avoir comme rencontre pour arriver à la paix. Le plus important, c'est d'arriver à mettre en pratique le cessez-le-feu, la cessation des hostilités et surtout... le retrait des troupes rwandaises de la RDC, c'est-à-dire l'effectivité de tout ce qui est pris comme résolution ou comme décision par rapport à la situation à l'est de la RDC. Merci Roger Kabengele depuis Lubumbashi. Alfred, okay, ben vous êtes à Mbujimayi, on vous écoute.
Merci, merci à vous et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi. Bon, sur ces, notre intervention se penchera aussi... par rapport à l'intervention de Maître Séraphin Oumba, un cadre de BDPS qui bascule depuis la ville de Mbujimayi. Donc, l'initiative de...
Allô?
Oui, vous écoutez. Allez-y, vous êtes en ligne, lui.
Oui, oui. L'initiative des princes de l'Église catholique et de l'EAC, ce n'est pas vraiment mauvais, mais ce que nous, les Congolais, nous ne voulons pas ce sujet. C'est des initiatives qui ramènera à un quelconque légitimité, ou bien les initiatives qui pourra peut-être se pencher du côté de légitimer l'agresseur rwandais et d'ignorer que l'agresseur rwandais agresse des gens à l'est de la République et faire semblant de cette agression, vouloir aller dans le sens où ignorer leur agression pour recommencer à nouveau bien sûr. Pour essayer de...
Vous avez apparemment quelques soucis pour bien expliciter votre idée. Vous parlez de reconnaître l'agresseur dans quel sens?
Oui, dans le sens où les pères catholiques ont lancé leur initiative de consultation.
Oui.
Et puis, ces initiatives-là mènera parfois à ignorer l'agression rwandaise anti-démocratique du Congo, à faire semblant de ce sujet ou à se lancer à nouveau dans d'autres affaires.
Voilà, ok. Oui, ça c'est votre façon
de... C'est pourquoi nous refusons toute démarche qui pourra ramener à l'illégitimité du rebelle. Et puis nous voulons les démarches claires et sincères, comme l'a dit le maître CG.
Voilà, merci, on a compris.
Un gouvernement d'union nationale.
Voilà. On a compris Alfred Okaïmi.
Oui, cette initiative est très bonne parce que ça ramène tous les fils du pays à une gouvernance de la République démocratique du Congo.
Alfred, on a compris, vous optez plus pour les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale par rapport à l'initiative de prince de l'Église catholique et protestante. Merci Alfred Kaimbe depuis Mbujimayi. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute.
Marcel, quelle lecture faire de ces initiatives? Je pense que ma lecture est que ces initiatives témoignent d'une volonté commune de résoudre les problèmes de paix et de sécurité. Elles illustrent également l'importance d'un dialogue inclusif et la participation de tous les acteurs concernés pour enfin arriver à une paix durable et une meilleure gouvernance. Mais Marcel, avec votre invité, le respect que j'ai à votre égard, moi je pense que la diversion des efforts ne nous amènera pas la paix dont nous avons voulu, ou dont nous voulons également. D'une part, le gouvernement initie ses consultations avec les pro-consultations, mais d'autre part également, l'Église catholique et l'ECC initient également leurs initiatives également, en prenant en compte également ce que les gouvernements légitimement élus considèrent également comme étant les agresseurs ou qui soutiennent également l'agresseur, notamment les Rwandais, les Ougandais et les autres. Voyez-vous, c'est la dispersion de ces efforts ne nous amènera pas à quelque chose également. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut également monter. Mais ces initiatives font face également à quelques défis. Je les relève également, ou je peux les relever, notamment sur la faible confiance entre partis. Marcel, le climat de méfiance entre les groupes armés, les partis politiques et les institutions légalement établies de l'État fragilise ces dialogues. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont appelés à être autour d'une table, mais cette méfiance quand ces partis au dialogue également, ou appelés à dialoguer, fragilise un peu ses efforts également. Pourquoi? Parce que les médiateurs ou les négociateurs également autour de cette table, notamment l'Église catholique, et les cités également, sont un tout petit peu soupçonnés de ne pas être neutres ou d'avoir une partialité dans ces conflits. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'aucuns, tout observateur, analyste politique, le dirait également. Oh, pourquoi tout simplement la prise en charge de certains prêtres catholiques, et Monseigneur l'a affirmé, ça sous-entend un grand problème, Marcel. Et de ce côté-là, le gouvernement ne voudrait pas se mettre autour du table afin de résoudre cette question, d'autant plus le gouvernement s'est dit que non, la partie médiatrice est déjà complice ou est déjà partielle à ces procès également. Comment voulez-vous que dans un conflit, le juge censé nous arbitrer, censé nous départager, il accepte un peu d'être pris en charge également? Et quelle serait la décision issue de ces négociations également? Voyez-vous, ça entache. Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui a été fait, ce sont des erreurs. Il faudrait mettre en place un cadre institutionnel. CENCO, Église catholique, MONUSCO, la CIRGEL et tous ces organismes régionaux et internationaux qui constituent un cadre réglementaire, un cadre institutionnel qui permettra à ce que les gens autour de cette table soient un peu sécurisés du point de vue confiance personnelle ou l'un envers l'autre également. Ça, c'est la première des choses. Mais que la résolution 2773 soit également discutée autour de cette table pour voir dans quelle mesure la paix doit être entachée, notamment les cessez-le-feu et déraciner ou maîtriser, enlever les problèmes qui peuvent empêcher les dialogues vrais et sincères également. Et enfin, Marcel, c'est les grands problèmes de la participation de la jeunesse. Pourquoi ne simplement engager ou initier les initiatives avec les mêmes acteurs qui ont détruit hier? Hier, ils avaient pris les armes contre l'État, mais les mêmes acteurs, ils sont appelés également à discuter autour de l'État pour parler encore de la nation. Pourquoi ne pas associer Maître Patrick? Pourquoi ne pas associer Marcel Ngomombala? Pourquoi ne pas associer beaucoup d'autres acteurs, les jeunes, les femmes? Pourquoi ne pas associer Madame Élisée Kazira et les autres, qui sont également des nouvelles forces, qui peuvent rester ou participer également à ce dialogue, apporter également leurs idées, et aussi prendre en compte les désirata. Mais dès lors que nous allons prendre les mêmes personnes qui se méfient l'une pour l'autre également, nous n'allons jamais atteindre la paix, et chacun a un agenda caché, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse également de l'Église catholique, ou qu'il s'agisse du Rwanda, ou de M23 et AFC, chacun a un agenda caché, et chacun veut protéger ses intérêts.
Voilà, donc, merci nous beaucoup.
Nous appelons, Marcel, l'application effective de la résolution 2773. C'est le cadre qui prime sur toutes les décisions et toutes les initiatives. Et
de voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Depuis Lubumbashi, on va écouter Élise Kavira qui va nous faire le condensé direction par rapport à ce sujet. Et puis, on aura deux auditeurs. Puis, on va conclure avec notre invitée Élise. Bonjour.
Bonjour, cher Marcel.
On vous écoute.
Alors, nous avons Marie-Paul Awa, depuis Kisangani, qui dit « Bien que toutes ces initiatives peuvent être vues comme des dernières cartouches pour les uns et les autres pour créer la paix en RDC, il y a cependant lieu de confirmer que toutes ces démarches parallèles exhibent plutôt un désordre tactique et stratégique des opérations de maintien de la paix et de la sécurité en RDC. Pour lui, la mise en place et le déroulement des consultations initiées par le chef de l'État pour mettre en place un gouvernement d'union nationale est une démarche anticonstitutionnelle. D'après ses observations, la démarche des princes de l'Église catholique et protestante ne pousse pas les gouvernants de la RDC à agir. Les pourparlers de Doha entre la RDC et le Rwanda sont contre-productifs. Et pour conclure, il dit, le contexte étant complexe à cause des intérêts divergents des acteurs en présence, toutes ces initiatives sont des projets mort-nés. Ruffin Nalikian, depuis Bulungu, est du même avis. Il pense que cette crise prendra fin réellement avec la volonté des politiciens congolais et surtout celle du peuple de l'Est. Justin Kalabia de Bounia se demande comment expliquer qu'un président puisse signer plusieurs accords sans tenir compte des inconvénients. Le président Félix Tshisekedi dit à son premier quinquennat, au lieu d'organiser son pays sur tous les plans, avait ouvert un boulevard des voyages. Depuis 2022, les M23 avaient occupé Bounagana, c'était le silence. Aujourd'hui, en 2025, il continue d'occuper le nord et le sud Kivu, il est toujours dans son silence. Les habitants de cette zone, comment vivent-ils? Ce pays n'a pas de chance. Ça, c'est l'avis de Justin Kalabia. Et nous avons Joseph Mubiti Kajazi, depuis Kinshasa, qui reconnaît que ces initiatives de paix sont importantes, mais elles restent insuffisantes tant qu'on ne s'attaque pas aux vraies causes de cette guerre. On ne peut pas parler de la paix tant que Le M23 continue de tuer, de piller et d'occuper notre territoire avec le soutien du Rwanda. Il faut des actions concrètes, pas seulement des discours. L'État doit se montrer fort, protéger ses citoyens et cesser de tergiverser. Trop, c'est trop. Le peuple congolais mérite la paix. Pas de compromis politique sans résultat. Chami Kolo Kitwembi Libertin, depuis la province du Sud, qui vous dit « Ces initiatives représentent une lueur d'espoir, mais elles ne suffisent pas à elles seules. La stabilité dans l'Est du pays dépend aussi de la sincérité des acteurs régionaux, notamment le Rwanda, mais aussi de la capacité du gouvernement congolais à rétablir l'autorité de l'État, protéger les populations civiles et désarmer les groupes armés. » Tant que les causes profondes du conflit, c'est-à-dire l'exploitation illégale des ressources, l'impunité, la marginalisation des populations locales, tant que cela ne sera pas réglé, la paix restera fragile. Il est soutenu par Pascal Kahirigano de Goma, qui pense aussi que les démarches de la CENCO SCC et les consultations du président Tshisekedi sont louables, mais ne suffiront pas si elles ne débouchent pas sur les actes concrets. La paix à l'Est exige plus qu'un dialogue. Elle demande des décisions courageuses et coordonnées. Nous terminons avec Boazi Soumaïli de Bukavu, qui dit « Malgré les multiples démarches faites par les responsables catholiques et protestants en faveur de la paix dans l'Est de la RDC, la paix sera toujours inexistante dans la partie est de la RDC tant que le Congo n'aura pas un gouvernement responsable, capable d'assumer sa responsabilité au lieu de pleurnicher dans les médias. Et aussi une armée digne de ce nom, capable de protéger ses frontières et mettre fin aux aventures des groupes armés, parce qu'on a le sentiment que les groupes armés étrangers ont élu domicile en RDC. On parle des FDLR, des ADF et même d'autres mouvements. Et ça, c'est inacceptable. Il est temps que le Congo s'organise pour pacifier et sécuriser son territoire. » Ce sont là les avis des internautes sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. Monsieur Marcel.
Voilà, merci beaucoup Elise. On va rapidement voir deux derniers auditeurs et puis conclure avec notre invité. Il y a Serge Tamboula qui nous appelle depuis Kamina. Serge, vous êtes en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
Alors Serge, on a placé des temps. On vous donne 30 secondes pour dire en moins, en 30 secondes, ce que vous avez à dire. Parce que vous avez suivi ceux qui ont parlé avant vous. Qu'est-ce que vous avez à compléter ? Rapidement, 30 secondes.
Bref, pour moi, je voudrais pas dire que toutes les idées qui ont découlé de part et d'autre sont bonnes. Mais de toutes les façons, avant tout, il faudra toujours chercher les causes, on parle des conséquences vers la cause. Ces conflits, on ne peut jamais les résoudre dans la précipitation. Il faut qu'on soit autour d'une table. Une seule table, c'est là que doit découler peut-être les divergences. Et en fait, on va converger vers un même sens. Bref, le président de la République doit aussi quitter son fauteuil. Elle n'est pas écoutée, la ceinture. Cette ceinture n'est pas en aucun cas condamnée de ce que les chefs de l'État peuvent faire comme les mauvais acteurs ou ce qu'il peut.
Voilà, désolé, on n'a plus assez de temps. Serge Tamboula, désolé, on n'a plus assez de temps. D'ailleurs, on ne pourra pas accorder la parole à Sylvain Kalonga qui nous a appelé depuis les Kassala Central. En tout cas, toutes nos excuses à vous. Sylvain Kalonga va vous retrouver prochainement puisqu'il ne reste plus que 2 minutes pour conclure avec notre invité, Maître Séraphin Mba. Vous avez la parole. Certainement, vous avez dit l'essentiel. Et en conclusion, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je pense que la démarche ici, concernant à encourager les négociations telles que lancées par les chefs d'État, reste louable. Mais peut-être parce que nous avons appris qu'il y a d'autres Congolais qui sont en train d'encenser la démarche de la CENCO et des prélats de l'Église protestante. Je pense que l'idée tout juste là de voir que est-ce qu'il n'y a pas moyen de fédérer les deux démarches. La démarche dite de Kolongele et la démarche de Senko, que les deux conclusions puissent donner aux Congolais une ligne à suivre. Mais tout ça, c'est pour résoudre une question interne. Mais la question à l'international, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais prennent conscience que cette guerre qui nous est faite par le Rwanda, c'est juste une guerre de soumission ou de domination. Domination pour plusieurs raisons. Les Rwandais voudraient que même un gouverneur de Kamina ou de Lubudi soit nommé par la simple volonté du Rwanda. Comprenez ce que je veux dire par là. Et ça, c'est inadmissible. Après qu'on ait connu tout ce qu'on a connu, ça ne sera plus la même chose demain. Et pour parer à toute cette éventualité, l'État congolais tout en prenant la paix, les négociations, ça et là, nous devons être conscients que nous devons avoir une armée. Une armée capable de nous défendre contre vents et marées. Et puis, alors, nous allons bien nous respecter avec l'État rwandais qui ne cessera jamais d'avoir son hégémonie sur le Congo. Et au finish, la question qui nous amène au bout de toute cette table, c'est la question des Congolais d'origine.
Voilà, merci. On va s'arrêter par là. Maître Serafin Mba, au cadre de l'UDPS qui va s'en va. Fin de ce numéro de Pause Auditeur. Au revoir à toutes et à tous.